T'avais pas l'impression que le temps il était plus long quand on était petit? On s'ennuyait.
Ouais, on s'ennuyait tout le temps en fait.
Ouais, mais je sais pas toi, moi je supportais pas ça, j'avais tellement besoin en fait de sortir de l'inactivité que j'essayais de me distraire par tous les moyens, mais j'avais l'impression que en fait certains types de distractions étaient dévalorisés. Tu vois, par exemple, je voulais mettre devant les dessins animés, j'adorais les Winx, et mes parents me disaient toujours, bah en fait fais quelque chose de plus intelligent, puis au pire un enfant ça doit s'ennuyer.
Mais pourquoi ils disent ça tout le temps? C'est ça la question, au final.
C'est vraiment la question, parce qu'au final, j'avais l'impression que dans tous les cas, j'étais inactive et qu'il y avait une forme d'oisiveté qui s'instaurait. Et pourtant, il y avait une manière d'être oisif, finalement, qui était mieux vue.
Mieux vu, et en fait, on y semblerait que quand on est enfant, on voit pas bien ce qu'on attend de nous.
Ouais.
Il doit y avoir en fait une espèce de voie médiane entre l'ennui et le divertissement.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a sûrement une forme d'oisiveté qui pourrait nous permettre d'allier la manière, enfin, dont l'oisiveté peut être utile, et quand même le repos et l'inactivité physique notamment, qui peut être liée à l'oisiveté, quoi.
Et donc, il doit y avoir plusieurs types d'oisiveté. Donc, ça a l'air d'être un phénomène quand même assez complexe.
Ouais. Ça te dirait qu'on fasse un podcast dessus?
Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Vous écoutez Radiopium, et aujourd'hui on va parler oisiveté. Alors pourquoi l'oisiveté? C'est un mot un peu spécial, qu'on n'utilise pas si souvent que ça finalement. Mais en fait c'est parce qu'avec Maëlle, on rentre de vacances et on avait envie d'y rester encore un petit peu. Du coup on s'est dit, bah on va parler d'un thème qui est en rapport avec ça. Et on s'est demandé en fait quel facteur commun on pouvait trouver dans nos vacances mutuelles. On s'est dit quel thème récurrent on a observé. Et c'est vrai que finalement, avec ces longues vacances scolaires qui sont celles de la faculté, on s'est dit qu'au final, on avait été pas mal oisives, quoi. Qu'il y avait bien pas mal de moments où on avait été inactive, on avait eu le temps à la fois de se reposer et aussi de se replier sur nous-mêmes, de réfléchir à plein de choses différentes, et puis aussi de se divertir, honnêtement, de poser notre cerveau à côté de nous. Et d'arrêter un petit peu de le surstimuler comme on le fait pendant l'année scolaire, quoi. Donc, je pense qu'on va peut-être se pencher d'abord sur à quel point l'oisiveté, c'est une forme d'inactivité.
Oui, d'ailleurs, l'oisiveté, c'est déjà un mot qu'on trouve très, très joli. Ça fait penser à oiseau, ça fait penser à comment on plane dans l'existence, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a tendance à opposer oisiveté et activité. Parce que l'oisiveté, elle est surtout présente en vacances. Mais on va peut-être d'abord commencer par définir l'activité et l'inactivité pour voir si l'oisiveté a vraiment un rapport avec ça. L'activité, très simplement, c'est une espèce de mise en mouvement en vue d'une fin, d'un objectif. On travaille pour gagner de l'argent, on cuisine pour se faire à manger. Il y a toujours une production derrière l'activité. Tandis qu'on pourrait simplement définir l'activité par son contraire, c'est-à-dire une absence de mouvement et de but.
Ouais. C'est vrai que du coup, on a l'impression là. Que l'oisiveté se résume à l'inactivité? Est-ce qu'on peut résumer et réduire l'oisiveté à l'inactivité?
Mais d'un côté, quand on est oisif en vacances, on ne fait pas rien.
C'est vrai.
Alors qu'est-ce qui se passe quand on est oisif?
Finalement, est-ce que regarder une série, c'est ne rien faire? On a quand même l'impression qu'on fait quelque chose.
Est-ce que marcher sans but, c'est ne rien faire non plus?
Très bonne question. Est-ce que ça serait pas la question qu'on va se poser dans le podcast? Alors Maëlle, parle-nous un petit peu de l'étymologie du mot.
Alors, le mot oisiveté est constitué de plusieurs étymologies. Il a plusieurs histoires, mais il semble évident de commencer par sa première histoire, sa plus ancienne, qui provient du latin, otium. Et en fait, l'otium avait déjà le sens d'oisiveté à l'époque, mais c'était une oisiveté plutôt studieuse, en fait. C'était un temps libre aux implications intellectuelles, morales, et c'était un moment, en fait, au cours duquel on contemplait, on se retrouvait seul pour méditer un petit peu. Chez les Romains, le terme de otium a une connotation, comment dire, il s'oppose directement au travail, à l'activité professionnelle. Par exemple, le mot négocier, en français, vient de la négation de l'otium. Donc négocier, c'est quand on est pris par des responsabilités politiques et publiques. Et l'otium, c'est le moment justement où on n'est pas dans ces responsabilités-là et où on peut se retrouver seul pour penser, écrire, lire. Et voilà. Donc ça s'oppose aussi au jeu, au divertissement, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut vraiment opposer l'oisiveté studieuse à toute forme d'activité professionnelle? Parce qu'en fait, il semblerait quand même que l'otium, ce soit le moment où on fait un retour sur soi, un retour sur ses actions, sur ses engagements, et qu'en fait, l'otium semble être comme la condition de l'engagement politique. Comment réfléchir, comment construire un engagement sans avoir le temps d'y penser tout simplement? Quand on est tout le temps pris dans le travail, c'est pas possible. Donc il semblerait d'abord que l'otium soit comme une condition de la réflexion, mais aussi de l'action. Chez les anciens, il y a aussi l'idée que l'otium est comme la condition de la liberté de penser. Puisque l'otium, c'est le seul moment où on se retrouve un peu tranquille pour réfléchir, alors l'otium apparaît comme la condition nécessaire de l'activité de l'esprit. Il faut comprendre en fait que l'esprit n'est pas vraiment libre dans le travail. C'est l'idée de Sénèque qui distingue les gens affairés, donc les gens qui travaillent, des gens oisifs en fait. Comme quoi, l'idée d'aliénation du travail est aussi ancienne que Sénèque et que la Grèce ancienne, et que Marx a dû s'en inspirer largement. Donc d'après Sénèque, les gens n'ont pas le temps de penser quand ils sont absorbés dans leurs responsabilités politiques et professionnelles. L'otium désigne donc un moment de répit qui ponctue la vie active ou la suit, en fait. La retraite a cette signification-là dans l'Antiquité. Par ailleurs, l'otium apparaît aussi comme un retour sur soi-même, et pas seulement un retour sur ses actions, mais comme un retour qui apparaît comme la condition de la connaissance de soi. Pour Montaigne, par exemple, le sujet est vraiment lui-même dans la solitude, la lecture, et pas dans le travail, en fait.
Bah, tu vois, finalement, ce que tu dis par rapport à la lecture, c'est très parlant, je trouve, parce que moi, j'étais une enfant qui lisait beaucoup, et j'ai eu l'impression que mon intériorité, justement, s'est développée à travers la lecture, et que j'ai pu me connaître moi-même, notamment grâce à la découverte finalement de certains personnages et à l'identification à ces personnages-là aussi. Et c'est vrai que finalement, prendre ce temps-là pour lire des choses, pour du coup être oisif d'une manière plutôt intellectuelle, ça m'a permis d'effectuer un repli sur moi-même et de développer peut-être même certains traits de caractère, notamment l'émotivité.
C'est sûr, parce qu'en plus, quand on commence à lire, on se rend compte que nos propres sentiments sont retranscrits par quelqu'un d'autre et ça nous aide à les comprendre. Donc il semblerait que Montaigne ait raison sur le fait que la lecture est la condition de la connaissance de soi, en quelque sorte. Et est-ce que tu as un exemple de livre, Marianne, à nous donner?
Est-ce que c'est vraiment un exemple que j'ai envie de donner? Bon, moi tout de suite, quand on en a discuté hors radio, j'ai directement pensé en fait à Nostal Contraire, qui est un livre vraiment pour adolescents, quoi, hein, de John Green. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au collège, début collège. Et c'est un livre qui m'a touchée profondément. C'est le premier livre devant lequel j'ai pleuré. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi, quoi. J'ai eu une sorte de repli sur moi où j'ai pris conscience de certaines émotions, de comment on pouvait ressentir la tristesse à travers la vie de quelqu'un d'autre. Et c'était vraiment quelque chose de particulier. Ça a développé une forme d'empathie, en fait. Et toi ?
D'accord, très intéressant. Moi, c'est pas tellement un livre qui m'a fait apprendre à me connaître, mais c'est plutôt en lien avec ce que je disais sur l'engagement. Et en fait, Death Note, qui est un manga très très connu, a été un peu mon introduction à la philosophie morale, et c'est vraiment le manga, la lecture, qui m'a fait prendre conscience qu'il pouvait y avoir plusieurs définitions de la justice assez contradictoires. Comme quoi, en fait, il y a des lectures qui peuvent paraître assez mainstream, mais qui nous amènent à nous nourrir de réflexions assez profondes, finalement.
Exactement. J'aurais pas dit mieux.
Et puisque je disais que Death Note m'a introduite à la philosophie morale, il semblerait que l'oisiveté en général soit le point de départ de la philosophie, en réalité. Puisqu'on vient de dire que l'oisiveté était la condition de la liberté de penser, la condition de l'action, la condition de la connaissance de soi. Et la philosophie, elle se définit comme un regard sur le monde, un regard réflexif, et qui nous amène à questionner le réel, et donc à nous libérer de certains carcans.
Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on ne se demanderait pas si ce type d'oisiveté est bien accessible à tout le monde? On dirait que c'est quand même une oisiveté réservée à certains privilégiés, qu'il faut avoir un certain accès à la culture pour pouvoir bénéficier de l'otium et pouvoir le pratiquer finalement. Ça serait peut-être pas, finalement, c'est peut-être pas la forme d'oisiveté la plus commune, n'est-ce pas?
C'est sûr, et elle n'était déjà pas commune à l'époque en quelque sorte, parce que le regard qu'on a sur l'Antiquité nous est transmis par des gens... plutôt noble et lettré, Voilà, ouais. On n'a pas la vie du gueux du tout, en fait. Et aujourd'hui, comme à l'époque, l'oisiveté studieuse, l'otium, n'est pas réservée à tout le monde, c'est sûr. Mais du coup, on pourrait se demander comment le commun se fait passer son temps libre, en quelque sorte.
Comment on le fait tous, à certains moments, parce que finalement, l'otium, c'est probablement pas le premier type d'oisiveté qu'on choisit, finalement, quand on a envie de se détendre et
Et ça, peu importe sa catégorie sociale.
Exactement. Et finalement, on pourrait dire que l'otium, c'est une forme d'oisiveté qui ne se reconnaît pas comme telle, puisqu'il y a quand même ce truc de se dire « Ah mais non, là, je suis dans l'action, je me cultive, je réfléchis. » Et du coup, j'ai l'impression même qu'il y a d'autres formes d'oisiveté qui sont dans ce genre-là, quoi, qui ne disent pas leur nom, finalement.
C'est sûr. Et puis en plus, quand on passe la journée à lire des classiques ou à regarder des... film italien, on se dit j'étais productif. Au fond, j'étais productif parce que ça m'a apporté quelque chose. Donc est-ce que c'est une oisiveté pure ? C'est pas sûr.
Et est-ce que l'oisiveté pure existe ? Ça, c'est la vraie question. Et du coup, c'est pour ça peut-être qu'on va s'intéresser à un autre type d'oisiveté. On avait parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte quand même que l'oisiveté, c'était un sujet très complexe, qu'il y avait beaucoup de choses à dire dessus, et qu'il y avait plusieurs types d'oisiveté. Et finalement, le deuxième type d'oisiveté auquel on peut s'intéresser, c'est le divertissement. J'ai l'impression que c'est aussi une forme d'oisiveté qui ne dit pas son nom. On est d'accord. Parce que quand on regarde un film, notamment tu parlais de regarder des films italiens, quand on regarde un film, quand on est finalement plus ou moins passif, mais qu'on se met devant un film quand même, on fait l'action de se mettre devant un film, du coup on a l'impression d'être actif et de ne pas vraiment être oisif. Et du coup finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension passive dans le divertissement et qu'avant tout, on imagine le fait de se divertir comme quelque chose de passif, parce que ça nous détourne des choses sérieuses, de l'essentiel. Et en même temps, on pourrait dire que parfois on choisit de se divertir, et que le fait de se divertir implique, à travers le pronom réfléchi « se », une certaine action de notre part. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement soumis au divertissement. Et donc dans les deux cas, quand on est distrait ou quand on se distrait, on est concentré sur autre chose que nous-mêmes, que nos problèmes. C'est donc une forme d'échappatoire qui peut parfois mener aussi à une certaine paresse qui nous empêcherait de faire certaines choses, d'accomplir certaines tâches qui s'imposent à nous, par exemple. Et qui nous pousserait parfois même à procrastiner. Mais alors du coup, est-ce que le divertissement est utile à nos vies ? On peut se le demander. Dans quelle mesure cette forme d'oisiveté devrait-elle en faire partie ? Et en gros, le divertissement est-il nécessaire ? Ou nous éloigne-t-il plutôt des préoccupations essentielles de l'existence ? Donc là, on va s'intéresser en fait à la pensée de Pascal, qui critique vivement le divertissement. D'abord, Pascal, il définit vraiment le divertissement comme un moyen pour l'homme d'esquiver la solitude de sa condition misérable. Et pourtant, il reconnaît aussi que le divertissement est omniprésent dans l'existence humaine. Qu'il est présent à la fois à travers les activités frivoles, comme le sport, les jeux, le théâtre, et aujourd'hui on pourrait même rajouter les films, les séries. Et puis dans les activités plus sérieuses, pour lui, même la guerre, la politique, ce sont des formes de divertissement. Et donc toutes ces activités servent à ne pas contempler l'absurdité et le néant de l'existence, selon lui. Ouais, c'est un peu dark. Et c'est grâce au divertissement, en fait, que l'homme sort de lui-même, entre guillemets, pour devenir en quelque sorte dépendant du monde extérieur et des autres. Et d'ailleurs, il y a une citation de Pascal qui décrit l'ambivalence du divertissement et à quel point il est condamnable, finalement, dans certains cas, bien qu'il soit omniprésent dans nos vies. Il dit, je cite, « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. »
Cette citation, elle fait carrément écho. Moi, j'aime pas me divertir, en quelque sorte. Enfin, ouais. Tout le monde aime se divertir, mais quand je regarde une série, par exemple, je vais me dire, j'ai mieux à faire quand même. Je pourrais réfléchir à des choses plus importantes ou travailler.
Il y a une énorme forme de culpabilisation finalement autour du divertissement.
Et je pense que cette culpabilisation, elle est liée au fait qu'on vit dans une société productiviste et que, en fait, quand on ne fait rien, on ne sert à rien.
Et on se sent inutile et on a profondément intériorisé le besoin d'être utile à quelque chose. Et même le terme utile en lui-même nous questionne parce qu'on se demande, mais en fait. On n'est pas des objets, enfin, utiles.
C'est vrai que c'est réificateur en quelque sorte.
C'est ça.
Et se rendre utile, c'est se faire objet, c'est se faire instrument d'une société destinée à produire. Après, on imagine que Pascal n'avait pas encore songé à cette perspective-là, ouais. Et que le sens de sa citation n'est pas vraiment là, en quelque sorte.
Peut-être, c'est nous qui divaguons un petit peu. Mais par contre, Pascal avait quand même saisi la portée négative du divertissement et avait bien vu, en tout cas, que ça pouvait nous détourner, à l'inverse aussi, de certaines choses qui semblent essentielles à l'existence humaine, et notamment la prise de conscience, finalement, de la complexité de l'existence, de la beauté des choses qui nous entourent aussi. Et finalement, il voyait le divertissement comme une manière d'accéder à un certain confort psychologique, comme une technique d'évitement, finalement.
D'évitement, parce qu'en plus, Pascal y considère que l'homme est profondément misérable et qu'il est jeté dans l'existence sans qu'on lui ait demandé son avis auparavant. Donc en fait, quand l'homme se retrouve dans l'existence, il n'a aucun repère.
Exactement. Et en fait, pour lui aussi, au lieu de se divertir, l'homme ferait mieux de se tourner vers les questions spirituelles et de se poser les vraies questions, selon lui, les questions existentielles, se demander pourquoi je suis là ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un Dieu, finalement ?
C'est ça.
Parce qu'on sait que Pascal était religieux.
C'est le début de la quête de Dieu. Et en fait, si on se divertit, on ne trouvera jamais Dieu. Pour Pascal, c'est ça le problème. Pour nous, bon.
C'est questionnable. Mais en tout cas, voilà, il y a... Peut-être qu'on pourrait se demander du coup s'il ne faut pas rechercher une forme de mesure dans le divertissement, parce que peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec la dimension, toute la dimension religieuse que Pascal apporte à sa théorie dans les pensées, mais on pourrait se demander s'il n'est quand même pas nécessaire de faire le vide, justement. Et le problème aujourd'hui, c'est que oui, comme on le disait tout à l'heure, on est coincé quand même entre le besoin de produire et la nécessité de prendre soin de nous-mêmes, parce qu'il y a aussi une injonction à prendre soin de soi. Et en même temps, bah, on nous... Comme on le disait tout à l'heure, même en fait, quand on parlait de notre enfance, il y a une manière d'orienter en fait la manière dont on prend soin de nous, et on essaie de nous dicter un petit peu aussi les bonnes manières d'être oisif, finalement, et de se divertir.
Ça me fait penser un peu au biopouvoir, en fait, c'est que l'État nous dicte comment nous comporter. Donc à la fois, il faut être productif, tout simplement, et à la fois, il faut prendre soin de soi, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça me fait penser un peu à ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment emprisonné en fait, parfois.
Et donc c'est ça, et au final ça crée des vraies tensions internes, où du coup on se divertit, mais on sait pas si on doit se divertir, on sait pas si on aime le faire du coup. Et du coup ce repos psychologique dont parle Pascal, quand il dit les gens quand ils se divertissent c'est parce qu'ils ont besoin d'éviter la dureté de la réalité, ils ont besoin d'avoir un confort psychologique, est-ce qu'on est vraiment dans un confort psychologique quand on se divertit finalement ? C'est là toute la question. Et finalement, peut-être qu'il y a quand même, dans le divertissement, une manière de nous permettre d'échapper à ces questions existentielles et à cette dimension productiviste, bien que ça nous fasse culpabiliser dans certaines mesures. Il y a quand même, comme on l'a observé ces dernières années, un grand succès de Netflix et des autres plateformes de streaming. Et finalement, on observe même une saturation au niveau des moyens de se divertir. Il y a tellement de moyens de se divertir différents qu'on pourrait penser et on pourrait... adhérer à la pensée de Pascal et dire que ça nous empêche même de penser, en fait, et qu'on évite le fait de penser. Et une autre question qui se pose à nous aussi, c'est au final, est-ce que se divertir à travers les écrans et se divertir à travers plein d'autres formes, est-ce que c'est une vraie forme de repos, au final ? Est-ce que y a tout le problème des écrans, notamment, qui troublent les cycles de sommeil, etc. Ça, encore une fois, c'est pareil, ça nous questionne sur le divertissement et sur sa portée régénératrice. Et puis en fait, il y a une dernière question qui est soulevée aussi par le divertissement, c'est le divertissement, en fait, si on en abuse, est-ce qu'il ne deviendrait pas aussi un frein à la création, finalement ? Parce que justement, à force d'éviter ce qui se passe dans nos têtes, et d'éviter, en fait, de se confronter à la réalité telle qu'elle est, quoi. Est-ce que, du coup, on n'en viendrait pas à limiter notre imagination et à se laisser dicter notre imagination par d'autres formes de divertissement extérieur à nous, finalement. Et donc c'est là que, en fait, on se demande, c'est là qu'on peut nuancer en fait ce besoin de se divertir. On se dit, certes, c'est nécessaire de se divertir pour faire le vide, mais ne faudrait-il pas qu'on réfléchisse et qu'on anticipe davantage la manière dont on le fait ? Et je peux vous attester, par exemple, que je me rappelle pas de toutes les séries Netflix que j'ai vues, parce que j'en ai quand même vu un bon paquet. Mais il y en a quand même certaines qui m'ont marquée. Donc c'est en ça que je pense que le divertissement peut nourrir la création. Mais si il est raisonné, et si on choisit bien la manière dont on se divertit. Et par exemple, ça m'a envie de parler un peu de Sex Education, qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, la dernière saison en tout cas, qui fait partie d'une de mes séries préférées, et j'ai l'impression que ça a véritablement stimulé ma manière de concevoir les rapports avec les autres personnes de ma génération, de concevoir les relations amoureuses, etc. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi. Ça a développé une certaine créativité aussi par rapport à ça. Ça a vraiment développé mon imagination. Et j'ai eu l'impression de me divertir en même temps de m'instruire en regardant cette série-là. Et donc, voilà. Il y a peut-être aussi une bonne manière de se divertir et qui pousse à la réflexion, finalement.
Et même sur Netflix. D'ailleurs, j'ai connu un professeur de lettres qui disait que Netflix avait vaincu les écrivains contemporains et qui préférait regarder Netflix plutôt que de lire ce qui sortait en ce moment dans les librairies, au final. Et d'après lui, les intrigues sont parfois plus complexes et plus riches que dans certains romans écrits aujourd'hui. Avis d'un prof de lettres très expérimenté, d'ailleurs. Donc, voilà.
Donc, finalement, divertissez-vous quand même. Mais faites-le bien. Et tout de suite, toujours en rapport avec notre sujet, on va écouter The Importance of Being Idle de Oasis.
Nous venons d'écouter The Importance of Being Idle de Oasis et il serait peut-être temps d'en parler pour voir en quoi ça a vraiment un lien avec notre sujet. Donc dans cette chanson, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Pour la traduire, ça signifie « mais moi ça ne me dérange pas du moment qu'il y a un lit sous les étoiles qui brillent ».
C'est beau.
Donc ça fait directement écho à la contemplation un peu dont on a parlé, au fait de se libérer un petit peu de toutes les préoccupations dans la vie active et de juste se concentrer sur la nature en fait, et sur le cosmos là en l'occurrence, c'est assez profond au final. Et dans la chanson, le chanteur dit « ma copine me dit de travailler, mes parents me disent de faire ça, mais moi j'ai pas envie parce que j'ai pas encore trouvé ma place ». Et en fait, cette chanson, elle semble parler de ce moment de solitude où on prend du recul et où on décide de la place qu'on prendra dans la société plus tard.
Et finalement, ça dégage une certaine nécessité dans le fait d'être oisif. Finalement, on dirait que c'est même une condition qui va nous permettre après de trouver notre place, de comprendre qui on est. Et ça fait bien référence à la perception qu'a Pascal aussi. Ce fait, du coup, cette importance d'être oisif pour...
Trouver son chemin. Vers la foi.
Vers la foi. Voilà, si finalement on trouve notre place, ça induit bien trouver nos croyances et trouver ce en quoi on croit, trouver notre place dans le monde grâce à Dieu. À ce moment-là, oui, on peut carrément suivre l'idée de Pascal. Et à ce moment-là, cette musique peut faire référence
à Pascal.
Mais ça peut aussi être plein d'autres choses, finalement.
Moi, ça me fait vachement penser aux élèves qui prennent une année de césure, par exemple.
Ouais.
C'est assez critiqué. Souvent, je pense que c'est un peu compliqué de persuader ses parents. Au final, on voit que c'est très nécessaire pour reculer, pour mieux sauter, en fait. Mmh. Et pour vraiment faire les bons choix avec lucidité et réflexion.
C'est vrai. Et puis, on critique souvent la nonchalance des jeunes, la fainéantise des jeunes. Et je pense que ça, c'est de génération en génération. Ça a toujours été présent. Ce qui d'ailleurs est souvent une idée reçue, mais au-delà de ça, je pense que oui, c'est super important en fait de prendre du temps pour se connaître, parce que dès qu'on est jeune, en fait, dès 3 ans, on va à l'école, on est pris dans un système, on est pris ça. Dans quelque chose qui nous surstimule tout le temps, et finalement, on parlait de l'ennui quand on était enfant, mais ouais.
Puis il semblerait qu'on confonde paresse et prudence chez les jeunes aujourd'hui. En fait, on est juste prudent, on va juste un peu plus lentement, on évite juste d'être pris dans les rouages d'une société qu'on comprend mal. Voilà.
Et finalement, c'est peut-être ça aussi être oisif, c'est être prudent. Il y a peut-être aussi de ça. C'est appréhender et prendre du recul, faire un retour critique en fait sur l'existence, sur ce qu'on est, qui on est.
C'est ça, décider de s'extraire en fait.
C'est ça.
Pour son bien. Moi, je trouve que c'est plutôt bien que les gens arrivent à faire ça aujourd'hui.
Voilà. Et à l'inverse aussi, se projeter dans le monde dans lequel on est et comme le chanteur le dit dans les paroles. Bah finalement contempler ce qu'il y a autour de nous et appréhender la réalité, apprendre à l'interpréter. Et donc quand il regarde les étoiles, il y a un petit peu de ça aussi. C'est une forme d'oisiveté, mais une oisiveté qui lui apprend des choses, peut-être, dans un sens. Il y a peut-être une forme d'otium, peut-être que si il lit la carte du ciel, etc.
Bah ça fait d'otium. Quoi l'otium, complètement.
Et c'est très poétique. Finalement, on voit aussi qu'il dégage bien la beauté de l'oisiveté et toute la poésie qui peut s'en dégager. Voilà, parce que je sais pas si on l'a précisé, mais idle en anglais ça veut dire oisif.
Ah oui, c'est quand même pour ça qu'on a choisi.
C'est quand même pour ça qu'on a choisi la chanson, donc c'était quand même cool de le préciser. Mais alors du coup là, ouais, on vient de parler du fait que le chanteur d'Oasis, dans ses paroles, faisait ressortir la poésie qui pouvait se dégager de l'oisiveté, la beauté de l'oisiveté et donc l'intérêt de l'oisiveté. Donc on a l'impression qu'il était quand même actif dans sa manière d'être oisif, ce qui est assez paradoxal. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une forme d'oisiveté où on est vraiment purement inactif? Et c'est un peu la question qu'on se pose depuis le début. Parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il prenait plaisir à l'oisiveté. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, moi je pense tout de suite à l'ennui. L'ennui, c'est une forme, en théorie, d'inactivité. Est-ce qu'on y prend plaisir? Et est-ce que du coup, on peut considérer ça comme une forme d'oisiveté?
Mais Marianne, l'ennui n'est-il pas la forme d'oisiveté la plus pure?
Bah c'est vrai que dans un sens, quand on pense à l'ennui, on imagine qu'on est dans l'inactivité la plus totale, finalement, qu'on ne fait rien. Et quand on regarde les définitions de l'ennui, ça coïncide assez bien en fait, avec cette idée-là. Parce qu'on peut d'abord définir l'ennui comme un sentiment de lassitude qui coïncide avec une impression de vide. Donc vraiment quelque chose de purement et simplement vide, le rien finalement par définition. Quoi. Et donc souvent, en fait... On dit quand même que c'est causé par une occupation monotone, sans intérêt, ou justement par l'absence d'occupation. Donc en fait, c'est possible de s'ennuyer en faisant quelque chose. C'est là déjà qu'on trouve un paradoxe finalement. Est-ce que c'est vraiment la forme d'oisiveté la plus pure? Parce qu'on peut s'ennuyer en étant dans l'action. Il y a aussi une autre définition de l'ennui qui est assez intéressante. C'est la peine éprouvée à cause d'une contrariété. Et ça serait du coup plutôt être ennuyé. Donc là, déjà, encore une fois, il y a une notion où on est sujet. Et où, du coup, on subit quelque chose. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui vient nous affecter. Mais en même temps, on n'est pas dans l'inaction parce qu'en fait, c'est nous qui ressentons quelque chose. Et rien que le fait de ressentir quelque chose, est-ce que ce ne serait pas être actif ? Penser quelque chose, c'est déjà finalement être dans l'action, au moins l'action intellectuelle. Et donc, en fait, là, on voit qu'il y a une définition qui est uniquement négative. Et donc, on comprend que c'est avant tout quelque chose quand même qui est perçu comme quelque chose de subi. Et il paraîtrait presque absurde de choisir de s'ennuyer. Pourtant, on pourrait penser qu'il y a une forme parfois de volontariat dans l'ennui. On pourrait se dire que des fois, on choisit de s'ennuyer et d'être purement, du coup, oisif.
Mais du coup, à ce moment-là, on décide de se couper de toute occupation pour faire comme Pascal et...
Ouais, c'est ça, finalement, il y a...
contempler le rien, quoi.
Complètement, il y a vraiment un lien avec ça. Et d'ailleurs, il y a une citation de Nietzsche que j'aime bien, qui dit « Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi ». Donc en fait, il parle de ce moment où vraiment... Donc, la traduction littérale est un peu spéciale, hein, c'est traduit de l'allemand. Mais quand, en fait, on ne fait rien, il y a un peu... Enfin, moi, j'ai cette image de quand on regarde dans le vide, en fait. On regarde l'abîme, selon lui. Et en fait, finalement, même si on regarde l'abîme, donc quelque chose qui est sans fond, il y a comme un mouvement réflexif qui nous ramène à nous, en fait. Et finalement, regarder le rien, c'est contempler...
Le rien que nous constituons.
Exactement.
En fait.
Parce qu'on n'est pas rien, mais on a une part d'inconnu, d'insondable, en fait.
Et puis on n'est quand même pas grand-chose, au final. C'est aussi ça.
C'est vrai.
Enfin, bref.
Et du coup, c'est assez intéressant. Finalement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fuit l'ennui et que c'est une forme d'oisiveté qui nous fait peur, et particulièrement quand on est enfant. C'est ce dont on parlait la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est en cela, du coup, puisqu'on le fuit tant, puisqu'il nous fait peur, puisqu'il nous confronte à nos propres états d'âme et à toute la vacuité qui peut exister en nous, en fait, tout le vide qu'il peut y avoir, et bah, du coup, il y a une certaine fécondité dans l'ennui. Notamment quand on est enfant.
Au sens de créativité, du coup.
Exactement. En fait, l'ennui est fécond dans la mesure où il nous pousse à aller plus loin que la réalité telle qu'elle est. Il nous pousse à développer notre imagination et à créer des choses.
Et du coup, on a la réponse à notre question. Pourquoi est-ce que les parents veulent tant qu'on s'ennuie ? La voilà.
Et voilà. Et finalement, ils avaient peut-être pas tort. C'est vrai que si on ne s'ennuie pas, et bah, c'est un petit peu compliqué quand même d'imaginer qu'il peut y avoir des choses au-delà de ce qui existe déjà, et d'imaginer qu'il peut y avoir création, qu'on peut dépasser la réalité telle qu'on la vit et telle qu'on la subit aussi. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser, encore une fois, à quand j'étais enfant, je sais pas toi, mais moi, j'avais ce truc, quand je m'ennuyais, bah, mes parents, ils me disaient, mais Marianne, trouve-toi une occupation, tu vas bien trouver, stimule ton imagination. Et c'est vrai que moi, j'étais une enfant qui adorait danser, alors bah, j'inventais des chorés, et puis je faisais des spectacles devant mes parents, quoi. Et je me transformais en chorégraphe, j'incarnais un rôle presque. Et c'était vraiment me projeter dans un monde imaginaire, quelque chose qui n'existe pas à l'origine, quoi.
C'est ça, moi je faisais pareil et je créais des histoires. Je me transformais en metteuse en scène et je déguisais mes cousines, je leur disais quoi faire et je les filmais. Bon, elles n'avaient pas l'air très contentes, mais c'est pas mon problème. Mais toujours est-il que quand on est enfant, ben, on arrive à créer plein de trucs et à vraiment développer nos propres univers. Et ça a un peu changé aujourd'hui avec les tendances...
Aux écrans, notamment.
Ouais.
C'est vrai que je pense que, en fait, un enfant, par définition, c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Parce que quand on est enfant, on a du mal à dissocier, en fait, la réalité de l'imaginaire. Et finalement, c'est l'âge, justement, où tout est mêlé et où, du coup, tout est possible. C'est un peu l'âge des rêves, l'âge de l'espoir, en fait. Non pas qu'on a plus d'espoir après, mais on est beaucoup moins réaliste et pragmatique sur les possibilités d'existence.
Ouais, en fait, c'est une période d'innocence assez féconde, quoi.
Exactement. Et du coup, finalement, bah, c'est difficile pour nous d'être oisifs parce que, en fait, notre cerveau est tellement surstimulé que même l'ennui est une forme d'occupation et mène à une autre occupation. Et du coup, au final, moi, ça me fait penser aussi à cette forme d'ennui qui peut exister quand on est adulte. Est-ce que quand on s'ennuie quand on est adulte, alors oui, on a plein de moyens de se divertir, du coup, et de combler cet ennui, et donc d'être oisif d'une autre manière, mais d'une manière qui nous donne l'impression de ne pas l'être. Même si on a ces moyens-là de se divertir, il y a toujours des moments de latence. Et moi, je pense particulièrement au moment où je suis dans le métro, par exemple, et où je regarde dans le vide, et j'attends juste que le moment passe, quoi. Ou je pense à ce moment sous la douche aussi, où on est tous, enfin, on a tous ce moment-là où, voilà, on dissocie sous la douche, on regarde dans le vide et on laisse l'eau couler sur nous. Bon, pas trop longtemps, attention, les gestes écologiques, c'est important. Mais voilà, enfin, on regarde dans le vide et on fait rien, en fait, à proprement parler, on ne fait rien du tout. Et pourtant, bizarrement, on ne s'ennuie pas. Donc finalement, on est oisif, mais on ne s'ennuie pas. Et du coup, pour revenir un petit peu à l'utilité de l'ennui et de cette forme d'oisiveté, j'ai envie de citer Nietzsche dans Le Gai Savoir qui parle des artistes et qui dit que les artistes et les contemplatifs ne craignent pas tant l'ennui que le travail sans plaisir. Ils ont même besoin de s'ennuyer beaucoup s'ils veulent réussir dans leur propre travail. Donc finalement, c'est intéressant. Là, il est en train de nous dire que l'ennui est une condition de la création. Au-delà de ça peut stimuler la création, en fait, c'est nécessaire à la création. C'est nécessaire au développement de l'imagination. Et donc, finalement, on peut vraiment dégager la nécessité de faire le vide pour produire de nouvelles idées, pour être novateur. Et donc, finalement, on pourrait dire que le fait d'être oisif, de s'ennuyer et donc de contempler le vide de l'existence, le vide qu'il y a dans notre existence, ça pourrait nous permettre justement de s'extraire de ce vide et de ce rien en créant en fait quelque chose qui provient du rien. Ce qui est la définition même de la création finalement. Et donc, on pourrait dire que l'ennui est inévitable. L'ennui comme oisiveté est inévitable. Et en fait, c'est une nécessité justement parce qu'il est inévitable. Et donc, plutôt que de subir cet ennui, il faudrait probablement l'exploiter, s'en servir. Et donc finalement, on pourrait dire que l'ennui existe justement pour qu'on puisse le faire disparaître. En fait, sa fonction première, c'est de nous pousser à l'annihiler, en fait. Et c'est là la nécessité de l'ennui. C'est là la nécessité de cette forme d'oisiveté, en fait. C'est de nous pousser à ne plus être oisif, finalement.
Mais du coup, Marianne, est-ce que c'est pas un petit peu idéaliste de penser qu'on peut toujours sortir de l'ennui ?
Et en effet, peut-être que j'ai une vision un petit peu trop positive. Parce que dans certains cas, on dirait bien que l'ennui nous entraîne dans une spirale négative et qu'on finit par se complaire un peu dans cet ennui.
C'est ça, parce que tu disais que l'ennui par essence était quelque chose qui nous encourageait à en sortir. Mais il y a des gens qui ne se sortent pas de ça et ça paraît même être une espèce de bourbier dans lequel on s'empêtre, quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais parler du désœuvrement qui me paraît être l'une des conséquences de l'ennui. Et en fait, être désœuvré, c'est le contraire de manœuvrer sa vie. C'est le contraire d'avoir un contrôle sur sa vie. Et c'est pour ça qu'être désœuvré suppose ne pas vraiment avoir d'activité. Puisque l'activité, c'est justement ce qui est censé générer un sens, générer des directions, mais aussi générer un sentiment d'utilité. Et quand on n'a plus tout ça, ben, il semblerait que le désœuvrement s'installe et qu'on ne fait plus rien. Et alors, ça se traduit par un manque de repères, d'objectifs, voire même d'une éthique personnelle qui guide nos actions en quelque sorte. Et le désœuvrement, c'est une forme d'oisiveté qui s'inscrit dans l'ennui et qui s'oppose à l'otium dont on parlait tout à l'heure. Parce que si l'otium nous donne des perspectives, nous donne du sens à travers la lecture, etc., et ben le désœuvrement, c'est un peu le contraire. C'est que c'est justement une forme d'oisiveté qui va nous perdre et qui va nous faire perdre de vue tous ces sens ou toutes ces perspectives-là. Et ce que je suis en train d'écrire, ça se rapproche pas mal des états dépressifs, en quelque sorte, parce que quand on est dans un état dépressif, c'est pas tellement qu'on est triste ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt qu'on s'ennuie et qu'on n'a plus vraiment envie de rien. Et alors, tous nos besoins vitaux semblent s'évaporer, on n'y pense plus. Et alors, on va se complaire dans cet état un peu végétatif, et c'est très très difficile d'en sortir. Et il semblerait pas qu'il y ait d'inspiration, en fait, quand on est dépressif. Enfin, c'est un peu l'idée que je m'en fais, mais j'ai sûrement... Enfin, peut-être tort à ce propos. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des artistes assez torturés aussi. Hein, mais, ça va un peu dans les deux sens. Mais toujours est-il que quand on est désœuvré, on est vraiment dans un état d'inactivité. Mais alors, est-ce qu'on peut toujours parler d'oisiveté ? C'est que ça semble quand même être une forme d'oisiveté assez éloignée de ce qu'on a décrit précédemment. Donc, soit l'oisiveté est une catégorie très large, soit l'insens précis, le désœuvrement n'en fait pas partie. Donc, je ne sais pas quel est ton parti par rapport à ça.
Ben moi, je dirais que l'oisiveté, dans l'oisiveté, il y a une dimension quand même choisie. Et si on la subit à certains moments, il y a quand même la présence du libre arbitre, tu vois. Il y a quand même ce truc de je choisis de me divertir, je choisis de pratiquer l'otium, je choisis de même d'aller sous la douche et de fixer dans le vide. Enfin, c'est pas un choix vraiment un parti pris, voilà. Mais il y a quand même toujours cette la présence de ce libre arbitre et cette capacité de s'en extraire. Et finalement, le désœuvrement, c'est quand même une perte de contrôle.
Complètement, oui.
Voilà. Mais c'est peut-être la limite à notre conception de l'oisiveté. C'est peut-être ce qui dépasse le concept en lui-même. Après, j'ai l'impression quand même que le désœuvrement peut mener à un certain type d'action aussi. Finalement, à une réaction face à ce désœuvrement. Et qu'en cela, on pourrait encore une fois le considérer comme une forme d'oisiveté, parce que ça sera aussi, encore une fois, une inactivité active, enfin qui mène à l'action, finalement.
C'est ça, parce qu'on parle beaucoup des improductifs dans la société, qu'on va aussi traiter de gens oisifs, hein, ceux qui n'ont pas d'activité stable. Et c'est là que peut apparaître la transgression, un comportement déviant. Et en fait, la transgression, elle va apparaître comme une option, parce qu'il va y avoir une recherche de sens dans la transgression. Le sens qu'on a justement perdu. Et qu'on va recréer soi-même. Donc,
justement parce qu'on subit parfois cette oisiveté, enfin ce désœuvrement, quoi.
C'est ça. Il y en a qui sont contraints de ne pas travailler aussi.
C'est ça.
Il y en a qui n'ont pas un droit à l'activité permanente. Alors, alors ils vont sortir dans la rue et faire n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Pas toujours. Et on parle des improductifs, mais on peut même se demander si l'activité apporte toujours du sens, en quelque sorte, parce qu'on Il y a aussi des personnes qui ont un travail, qui vont être déviantes, qui vont être transgressives parce que leur travail ne leur plaît pas, ou alors que ces personnes vont être trop lucides par rapport au système dans lequel on est. Elles vont trouver ce système absurde, injuste, et alors elles vont se lever contre la société. C'est possible aussi, donc comme quoi l'activité, elle n'est pas forcément un critère très fixe pour juger de tout ça, parce qu'il y a quand même le fait qu'elle s'inscrit dans un système plus large, en fait. On peut pas juste dire l'activité génère du sens, l'activité permet ci ou ça.
Ouais.
C'est très variable en fait, et très relatif.
Est-ce qu'on pourrait pas dire du coup aussi qu'il y a des activités oisives?
Bah, il semblerait que si, parce que ce qu'on a décrit dans l'oisiveté, c'est quand même qu'il y a une forme de mouvement et d'activité. Alors peut-être qu'on pourrait définir l'oisiveté comme le paradoxe de l'activité qui ne produit pas, ou de l'activité inactive.
C'est le moment où on dit naturel, Maëlle. On se sépare de nos papiers, on discute. Et là, carte blanche, quoi.
Carte blanche.
C'est quoi l'oisiveté pour nous?
Quelle place ça prend dans nos vies, finalement?
Honnêtement, je vais pas mentir, je suis quelqu'un d'oisif. J'essaye de m'en défaire parfois. Des fois, ça me sert à quelque chose, des fois, ça stimule ma créativité. Hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Netflix, on va pas se mentir.
On aime se divertir. En même temps, on est étudiante, on a beaucoup de temps devant nous.
Bah c'est ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une perte de conscience à travers l'oisiveté de ce que le temps est et de la préciosité du temps. Je sais pas si t'as cette impression-là.
Oui, en quelque sorte, parce qu'on nous laisse beaucoup de temps, parce qu'il faut qu'on soit autonome, qu'on gère notre temps de travail tout seul, etc. Enfin, personnellement, ouais. Moi en master, j'ai 10 heures de cours, hein, et je dois le consacrer à mon mémoire, sauf que le reste du temps, je suis confrontée à un grand vide que je dois meubler toute seule. C'est vrai que c'est parfois dur d'être disciplinée en fait.
D'être actif.
C'est ça, il faut décider de se lever à 9h tous les jours pour aller à la BU, mais ça va pas de soi tout le temps, quoi. En gros.
C'est ça.
Et c'est facile quand on a du temps devant soi de le gâcher, en fait. C'est un peu ce que tu dis.
Et finalement, tu vois, directement, c'est marrant parce que j'utilise le mot gâcher. Est-ce que l'oisiveté, c'est toujours gâché?
Non, mais bon, voilà, on est encore conditionnés.
Et tu vois, je pense que ce qui est marrant avec Maëlle, c'est qu'on se connaît bien hors radio et on n'a pas du tout la même conception. Enfin, on n'a pas les mêmes manières d'être oisive. C'est vrai que moi, je pense que je suis beaucoup plus justement dans l'oisiveté divertissante, bien que je sois aussi parfois dans l'otium et dans toutes les autres formes d'oisiveté. Et je pense que j'éprouve moins de culpabilité. Il y a peut-être ce truc-là aussi où j'ai besoin de poser mon cerveau, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai du mal un peu à me poser, mais même physiquement, en fait, j'ai du mal à pas sortir au moins 2 heures tous les jours. Je pourrais pas passer la journée chez moi. C'est pas possible. Faut que j'aille me balader ou que j'aille faire une expo. Faut que ça bouge, quoi. Qu'il se passe des trucs. Vraiment, végéter devant une série toute la journée, c'est pas possible.
Maëlle adhère beaucoup à l'otium. L'otium.
Voilà, c'est... Je suis un peu grecque, en fait, moi.
Née à la mauvaise époque.
Voilà, c'est ça.
C'est terrible. Ouais, mais du coup, au final, l'oisiveté, peu importe quelle forme elle prend dans nos vies, elle est essentielle à nos vies, elle est nécessaire, elle est là tout le temps. C'est un peu ça la conclusion qu'on peut en faire, en fait.
Sinon, on est aliéné.
Sinon, on est aliéné à la société. On est dans l'instant présent tout le temps et on n'est jamais dans l'intérieur, dans notre intériorité, en fait. Dans l'extériorité permanence.
Hegel disait « l'immédiateté tue l'esprit
».
N'est-ce pas
Pour revenir à une touche plus philosophique.
Voilà, on a besoin de sortir de l'immédiateté et de prendre du recul, quoi. En gros, c'est un peu le message de cette émission.
C'est ça. Même si certaines formes d'oisiveté, encore une fois, nous poussent à être dans l'immédiateté.
C'est sûr.
Mais je pense que ce qui est important, c'est de garder cette distance-là, justement, avec l'oisiveté, ce regard critique et la conscience qu'on est oisif, sans pour autant y ajouter de la culpabilité. N'est-ce pas? Voilà, notre émission touche à sa fin. On vous remercie de nous avoir écoutés. En tout cas, on a vraiment pris plaisir à faire cette émission. Et finalement, je crois que... Enfin, je sais pas toi, Maëlle, mais j'ai apprécié cette rentrée.
Parler d'oisiveté, c'est toujours agréable.
Finalement, ça a un petit peu prolongé nos vacances, quoi. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis on espère que ça vous a permis aussi un petit peu de vous évader. C'était Maëlle et Marianne au micro de Radio Pium, diffusé un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Vous pouvez nous retrouver sur le Instagram d'Opium Philosophie. Et n'hésitez pas aussi à nous soumettre vos idées et vos questions via l'adresse mail de Radio Pium, opium.radiopium@gmail.com. Vous pouvez également retrouver nos émissions sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcasts et d'autres. Et surtout, avant tout, sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.